La dernière des Castlemaine de Ouida. Cécile Castlemaine était la beauté de sa famille et de son comté, la plus belle de toutes les femmes de sa lignée, quand elle traversait, il y a un siècle et demi, les grandes salles du château de Lillisford. Toute la ville en était folle. Sa beauté, plus puissante que la haine des partis, était citée également par les Whigs de Saint James et les Tories du Cocoa Tree, par les beaux de Garraway et les petits maîtres d'Ozinda. Partout, à Haymarket, comme à l'opéra ou au bal du roi, elle était entourée des premiers hommes du jour et cordialement détestée par les beautés du parti Whig, car elle était Tory jusqu'au bout des ongles et même jacobite de cœur. Elle avait un culte pour Bolingbroke, elle haïssait Marlborough et le prince Eugène, croyait fermement à toutes les horreurs du programme qu'on disait avoir été préparé par les Whigs pour la fête anniversaire de 1711, et fut même soupçonnée d'avoir inspiré la satire célèbre contre ces belles dames politiques, déguisées sous le nom de Rosalind et de Negranier, dans le numéro 81 du Spectateur. Cécile Castlemaine, plus belle à 24 ans qu'elle ne l'avait été à 17, n'était pas mariée encore, bien que les plus grands noms du pays se fussent offerts à elle, bien au-dessus de la coquetterie de ses amis, dédaignant le jeu de l'éventail et les minauderies à la mode, radieuse, fière et sans égale, elle s'appartenait tout entière. Aucun des plus brillants gentilshommes de la ville ne pouvait se vanter à son club, à moins de mentir plus effrontément encore que Tom Wharton lui-même, d'avoir été honoré d'un seul regard d'encouragement par la fille du comte de Castlemaine. Son père l'engageait inutilement à ne pas dédaigner des parties que toutes les femmes de la cour lui enviaient, et quand ses belles amies, les coquettes de qualité, la raillaient de sa froideur, tout en lui enviant ses conquêtes, elle souriait du bout des lèvres et secouait la tête. Peut-être était-elle insensible. Elle ne liait pas. Ces messieurs n'étaient-ils pas charmants? D'accord. Sa grâce de bel amour. Un homme d'esprit, assurément. Lord Milliamont. Amusant, me vanta. Puis, il avait de belles mains, mais quel dommage qu'il y pensât toujours. Sir Gage Rivers, un amoureux aussi attentif que celui de la comédie du Train du Monde. Mais elle avait entendu dire qu'il se moquait des femmes en prenant son chocolat aux Indas. Le comte d'Argent, un vaillant soldat, mais quelle maîtresse rivaliserait jamais dans son cœur avec les dés au jeu de Groom Porter. Lord Philip Bellairs, un vrai gentilhomme. Le modèle des hommes de cour, élégant, sans défaut, plaisant à toutes, mais ne lui plaisant pas à elle. Peut-être bien qu'elle était trop difficile, trop dédaigneuse, comme on le disait. Mais elle était ainsi, et pourquoi vouloir changer quand on se trouve heureuse? Quant à elle, elle ne pouvait comprendre que l'on puisse se donner tant de peine pour jouer de l'éventail, choisir et assortir des rubans, et s'exercer à faire la révérence devant une glace, tout cela pour obtenir un regard et un sourire d'homme dont on ne se souciait pas même. Une femme belle et fière devait être au-dessus de ses affectations et de ses minces triomphes. Ainsi pensait Cécile Castlemaine, et elle poursuivait fièrement sa route, conquérante et jamais conquise. C'est à elle que devait penser Richard Steele quand, sous le domino de la coquette dévote, il écrivait dans son journal « J'honore celles qui pourraient être coquettes et qui ne le sont pas, mais je méprise de toute mon âme celles qui voudraient l'être et qui, désespérant d'y arriver, ne peuvent dire assez de mal de leur rivale plus heureuse qu'elle. » Cécile Castlemaine était donc la reine du jour, et quant à Drury Lane, elle se trouvait dans sa loge du côté Whig du théâtre. Les plus fervents admirateurs de Mrs. Oldfield et de Mrs. Porter entendaient à peine un mot de la fille héroïque ou de la veuve amoureuse, et le galant le plus rempli de ses propres perfections oubliait ses gants à franges d'argent, et sa tabatière à médaillon, et sa canne merveilleuse, et les prouesses qu'il méditait en la regardant assise, avec son air de souveraine, les diamants des Castlemaine étincelants sur son front. Aussi, quelle ne fut pas la joie de ses bonnes amies lorsque le 22 juin, le grand carrosse de la famille, avec les trois hérons blasonnés sur ses panneaux, ses livrées brodées et ses harnais dorés, s'ébranla lourdement pour s'éloigner de Londres sur les mauvaises routes de la campagne, tandis que les paysans, sortant de leur cottage, contemplaient avec stupéfaction la pompe princière du coche de Milord. On disait en ville qu'un certain ecclésiastique, chapelain du comte de Castlemaine, avait jasé indiscrètement au café Child de la politique de son patron, que des lettres chiffrées avaient passé la Manche dans des tablettes de chocolat lorsqu'après la paix d'Utrecht, on put importer de nouveau les marchandises de France, que des personnages haut placés étaient véhémentement soupçonnés de desseins hostiles à la tranquillité du pays, que le comte, entre autres, avait reçu d'un parent puissant l'avis de quitter pour quelque temps la cour où il était mal vu, et la ville où le moindre mot imprudent pouvait l'envoyer à la tour, et de se retirer dans sa terre de l'Hellesford, où les daims n'espionnaient pas, où les forêts des hêtres étaient discrètes. Et les belles dames, sachant qu'elles auraient le champ libre pendant la saison, se félicitaient de sentir Cécile claquemurée dans son château et jouissaient de tout leur cœur de l'histoire de la lettre chiffrée, des méchants propos des Café Whig, de la mauvaise renommée que le comte s'était faite à Saint-James, et surtout, comme c'est la règle dans l'humaine nature, masculine ou féminine, de l'infortune de leur ami. C'était au mois de juin de l'an 1715. Les Tories s'agitaient sourdement. L'arrestation d'Ormond et de Bolingbroke avait accru l'éloignement pour les nouveaux venus de Hanovre. Les gentilshommes du parti vaincu dans le sud du pays commençaient à sentir avec impatience l'intrusion des Allemands et à penser avec regret à la dynastie légitime. Eux aussi arrivaient à comprendre l'irritation croissante de leurs compatriotes du Nord qui, depuis longtemps, se débattaient comme une noble meute qu'on tient en laisse. Les émissaires allaient et venaient entre Saint-Germain et les nobles jacobites. Des prêtres catholiques avaient la main dans ces intrigues. On recevrait des lettres dans d'innocents paquets de dentelle et des plans de campagne enveloppés dans des sucreries. C'était un temps dangereux, plein de complots et de contre-complots, de risques et d'embûches. Un de ces moments où les hommes, vivant habituellement sur une mine, apprennent à aimer l'inconnu et trouvent la vie sans saveur quand ils n'ont pas la chance de la perdre d'un moment à l'autre. Aussi le comte de Castlemaine trouva-t-il bon de suivre la vie qui lui était donnée et de quitter Londres, un peu pour la sécurité de sa personne, un peu pour l'avancement de sa cause, qui se trouverait mieux l'une et l'autre de sa résidence dans son comté que du voisinage des Whigs de la capitale. Le château de l'Hellesford, bâtiment énorme du temps des Normands, était caché dans les épaisses forêts de l'ouest. Des troupeaux de daims paissaient sous les hêtres et les cygnes se miraient dans la rivière au jour où Cécile vint partager la retraite de son père, comme encore aujourd'hui que son nom et ses titres sont gravés sous la plaque du cercueil où elle repose dans le mausolée de l'autre côté du parc. La campagne portait sa verte livrée de la Saint-Jean et les boutons de rose semaient de leurs pétales odorants le velours des gazons que foulait la belle exilée. La matinée était sans nuages quand elle descendit le grand escalier où les dames et les cavaliers de sa race, peints par Lely et Jameson, semblaient la suivre du regard du fond de leur cadre bruni. Elle traversa la halle de son pas si fier et pourtant si léger, et s'en vint sur la terrasse qui domine le parc. Van Dyck aurait aimé à peindre cette jeune fille debout sur le balcon, tout entourée de fleurs et de lumière. Il reproduit avec amour sa main légèrement posée sur la tête d'un lévrier, son air de grâce et de dignité, ses yeux d'un bleu profond, son front pur et les jeux de la lumière dans les plis de soie de sa robe traînante. Mais son portrait, peint par Van Dyck lui-même, ce maître consommé des élégances, n'aurait pas été plus fidèle qu'un croquis fait un peu plus tard par un homme qu'il aimait et qu'on peut voir encore dans la grande galerie de l'Hellesford, illuminée par le soleil à travers les fenêtres du couchant. Cécile resta longtemps sur la terrasse, regardant les forêts et les collines, sa petite main reposant toujours sous la tête du lévrier. Mais elle regardait à peine le paysage qui l'entourait. Ses pensées étaient ailleurs, tout occupées des chances favorables ou adverses de la cause qui lui tenait si étroitement au cœur, des dangers que courait son père, et des perspectives lointaines qui lui montraient un retour de fortune pour cette maison des Stuarts, la seule que les Castlemaine eussent jamais reconnue comme celle de leur roi. Elle avait quitté la ville avec regret. Mais ce qu'elle regrettait, ce n'était ni Bellamour, ni Sir Gage Rivers, c'était le mouvement, l'esprit et les enchantements de ce monde où, reine du jour, elle était accoutumée à régner. Pourtant, elle n'avait donné que quelques instants à ce retour sur le passé. Debout sur la terrasse, dans cette première matinée de son exil, ses pensées revenaient toujours au loyaux gentilshomme du Nord ou à la cour de Saint-Germain. Ses lèvres semblaient sourire à quelques visions de triomphe évoquées par l'ambition et la fantaisie. au bruit du galop d'un cheval, elle leva vivement les yeux et vit un cavalier qui arrivait le long de l'avenue vers la grande entrée du château. Sa monture était couverte d'écume et semblait surmenée par une longue course. Lui-même ne semblait pas moins harassé de fatigue. Pourtant, il ôta son chapeau et salua très bas en passant au pied de la terrasse. « Serait-ce le messager attendu de Saint-Germain ?» se disait Lady Cécile, tandis que son chien aboyait avec fureur l'étranger. Rentrée dans sa chambre, elle se mit à travailler avec distraction à un mouchoir brodé, quand on vint lui dire que sa seigneurie la priait de descendre dans la chambre octogone. Elle y trouva le nouveau venu, que son père lui présenta comme un de leurs amis les plus sûrs, Sir Fulk Ravensworth, celui-là même qu'on attendait. Cécile salua l'étranger avec cet air de dignité sûre d'elle-même, qu'on ne pouvait appeler de la condescendance, mais qui semblait exclure à jamais toute familiarité et marquait autour d'elle comme une barrière infranchissable. Sir Fulk Ravensworth était grand et beau, de noble apparence, la figure bronzée par le soleil étranger, mais pâlie en ce moment par les fatigues du voyage, son habit brodé d'argent couvert encore de poussière. Mais quand il s'inclina devant elle, Cécile Castlemaine remarqua bien vite que ni Lord Bellamour ne pouvait avoir meilleure grâce, ni Lord Millamant un si grand air de cour. Bientôt elle prêta une oreille attentive à ce que lui disait son père des nouvelles que Sir Fulk apportait de Saint-Germain, à travers mille dangers, sous main déguisement et avec une hâte fiévreuse. C'était une lettre chiffrée de Jacques Stuart à son féal et bien-aimé sujet, George Herbert Comte de Castlemaine, une lettre de la plus haute importance, qu'il fallait lire les portes closes et à voix basse dans ces jours dangereux, où les figures des tapisseries semblaient vous épier, et le chien qui dormait à vos côtés prêt à lire et à trahir votre pensée. Quitter l'Hellesford tout de suite aurait été également dangereux pour l'étranger et pour ses hôtes. Le garder auprès d'eux était le seul parti à prendre. Celui qui avait apporté ce message sans prix ne pouvait s'éloigner si vite et risquer de nouveaux dangers en cherchant à regagner les côtes de France. Le comte le fit comprendre à l'émissaire, qui le remercia en accédant à sa demande. Peut-être la beauté, dont il avait vu les yeux s'animer d'un éclair de joie et d'orgueil en lisant la salutation royale, lui faisait-elle envisager avec plaisir cette prolongation de séjour. Peut-être lui importait-il peu de savoir où il passerait ses journées en attendant le moment décisif où il se mettrait en campagne, à la mort et à la vie, pour la rose blanche et les longues chevelures. Il n'était qu'un soldat de fortune, un pauvre gentilhomme, sans autre patrimoine que son nom, ni d'autre chance de distinction que son épée, et voué à une cause dont l'étoile avait dès longtemps pâli. Pendant des années, sa vie n'avait été qu'une alternative de périls et d'aventures, tantôt combattant sous Berwick à Almanza, tantôt risquant sa vie dans des missions dangereuses que Jacques Stuart n'aurait pu confier à nul autre. Brave jusqu'à la témérité, il avait cependant la finesse d'un diplomate et la cour exilée avait ainsi en lui le plus précieux des serviteurs. En vrai prince, comme en vrais hommes, les Stuarts s'empressèrent de se servir de lui, mais oublièrent toujours de le récompenser. Lady Cécile s'ennuyait un peu. Prendre des notes le dimanche sur les interminables sermons du chapelain, jouer au crambo, recevoir ou visiter des Pérez campagnardes qui n'avaient pas été à Londres depuis le couronnement de la reine Anne, des squires ou des chasseurs de renards qui ne connaissaient d'autre musique que les aboiements de leur meute, tout cela était pour elle d'un médiocre réconfort. Aussi la présence de l'envoyé des Stuarts ne lui fut-elle pas tout à fait indifférente. Au commencement, elle le voyait peu et lui parlait seulement à table, avec cette dignité polie, si différente des manières légères des grandes dames du temps, avec cet air calme et froid qui glaçait à demi les plus douces paroles sur les lèvres de bel amour et rendait hésitant le plus audacieux et le plus vain des fats. Peu à peu, elle remarqua que Sir Fulk avait connu bien des pays différents, qu'il savait les langues et les littératures de France, d'Italie et d'Espagne, enfin qu'il avait fait son apprentissage d'homme du monde dans les salons de Versailles, aux réceptions de la duchesse du Maine et à la cour de Saint-Germain. Il parlait avec un enthousiasme sérieux et résolu de la crise décisive qui s'approchait, et ses entretiens plaisaient mieux à Cécile que les frivolités et les prétentieuses bagatelles auxquelles on l'avait accoutumée à Londres. Là, sans doute, elle aurait à peine remarqué le pauvre officier au milieu des admirateurs qui se disputaient son éventail. Ici, elle daignait écouter le mandataire de son roi, elle daignait sourire, et quel sourire, si rare, mais si beau, sur ses fières lèvres. Quand il lui parlait des femmes des cours étrangères, et parfois, mais il ne le faisait pas volontiers, de sa vie accidentée et périlleuse, elle se sentait intéressée. Elle aimait à prolonger avec lui la causerie quand ils revenaient ensemble à cheval le long des avenues de hêtres, ou que, debout sur la terrasse du château, ils contemplaient le coucher du soleil. Les gentilshommes et les dames de Saint-James, avec leurs romances françaises et leurs citations d'Aurungzeb, ne l'avaient guère habitué à de semblables entretiens. D'ailleurs, Fulk Ravensworth ne la flattait jamais, et le miel de la flatterie avait toujours répugné au goût de Cécile. Il osait louer devant elle la beauté d'autres femmes. Il avait même le courage de n'être pas toujours de son avis. Tout soldat qu'il était, il savait manier le crayon et les pinceaux. Il lisait à haute voix le poème du Tasse ou les comédies de Lope de Vega. Et ce pauvre gentilhomme, sans avenir, parlait de la vie et de ses chances, de la cause et de ses périls, avec une décision courageuse qu'elle n'avait jusqu'ici rencontrée chez aucun autre. Somme toute, pendant ces longues journées d'été, Lady Cécile trouvait dans l'envoyé de Saint-Germain une société selon son goût. Elle recherchait moins la solitude de sa chambre et l'écoutait volontiers causer aux heures du soir, quand la rosée remplissait les coupes des roses et que les étoiles se miraient parmi les nénuphars des étangs. Une certaine douceur s'emparait alors d'elle, qui triomphait de cette froide indifférence dont s'étaient plaints si souvent ses admirateurs, et donnait à sa beauté ce charme secret qu'avait manqué jusqu'ici à la belle Castlemaine. Quand elle lissait presque tristement les plumes de son faucon, quand elle écoutait les vers où Pétrarque et Congrève parlent de l'amour, on aurait pu voir de temps en temps ses joues et son front se colorer d'une rougeur délicate et fugitive comme le reflet des nuages du soir sur une statue de marbre blanc. Puis elle reprenait possession d'elle-même, secouait ses rêves et redevenait hautaine et glacée comme les diamants des Castlemaine qu'elle portait dans ses cheveux. Ainsi se passa l'été. Les champs de blé jaunissaient, le feuillage d'hêtres prenait les teintes de l'automne. Comme les blés ne mûrissent que pour la faux et que les feuilles des arbres ne se dorent que pour mourir, de même les ambitions les plus ardentes des hommes et leurs espérances les plus chères ne grandissent que pour se perdre dans le désappointement. 4 mois s'étaient écoulés depuis que le messager des Stuarts était arrivé à l'Elesford, 4 mois qui pour lui avaient passé comme un songe. Le moment était venu d'exécuter l'ordre qu'il avait reçu, de se rendre rapidement en Écosse et de porter des instructions et des dépêches au comte de Mar. Le prétendant était sur le point de venir rejoindre ses loyaux Écossais. Mesuré au courage de Fulk Ravensworth, le triomphe semblait sûr. La défaite, à moins d'être amené par des dissensions intestines ou par la trahison, était impossible. Le succès lui donnerait-il peut-être, à lui qui ne possédait au monde que son honneur et son épée, le droit d'aspirer. Cécile Castlemaine était debout dans l'embrasure de sa fenêtre. Les rayons du soleil d'octobre se jouaient dans les opales de son corsage. Elle tenait une de ses mains sur son cœur, comme si quelque chose l'eût fait souffrir. C'était bien nouveau pour elle, cette inquiétude, cette fatigue, ce poids qu'elle sentait et qui ne la quittait plus. Était-ce, se disait-elle, les périls de la cause commune, les dangers qu'allait courir son père? Mais comme tout cela était faible, enfantin, indigne d'une Castlemaine, et pourtant la douleur était toujours là. Son chien, endormi près d'elle, leva la tête avec un sourd grognement quand un pas d'homme se fit entendre dans le sanctuaire de sa maîtresse. Puis il se retourna pour dormir en reconnaissant un ami. Elle leva lentement la tête. Elle savait que les chevaux attendaient déjà. Elle avait pensé éviter la cérémonie des adieux et n'eût jamais cru que personne fût assez audacieux pour venir prendre congé d'elle sans en avoir obtenu la permission. « Lady Cécile, je ne pouvais partir sans un mot de vous. Pardonnez-moi si j'osais venir le chercher jusqu'ici. » Comment se faisait-il que les franches et brèves paroles de Ravensworth lui plussent toujours davantage que les paroles dorées et insinuantes de tous les autres? Il lui aurait été difficile de le dire, si ce n'est qu'il y avait dans son accent quelque chose de loyal et de sérieux, tout à fait nouveau à son oreille et à son cœur. Elle pressa davantage sa main sur les opales, les joyeux de la tristesse, et sourit. Que Dieu soit avec vous, sœur Falk, et vous sauve de tout péril. » Il s'inclina lentement, puis se redressant, et regardant la lumière qui se jouait sur les opales. « Est-ce là tout ce que vous m'accordez ?»« Tout ? Mais voudriez-vous davantage, sœur Falk ? C'est déjà plus que je n'en dirai à bien d'autres. Pardon, c'est plus en effet que je ne demanderai, en consultant la prudence et la raison. Je n'ai aucun droit à réclamer davantage. De semblables prières ne sont permises qu'aux privilégiés de la fortune. Le pauvre ne devrait avoir ni sensibilité que l'on pût faire souffrir, ni fierté que l'on pût froisser. Ce sont là les prérogatives des heureux. » Les lèvres de Cécile pâlirent, mais elle répondit avec hauteur. « Votre langage est étrange, sœur Falk, je ne le comprends pas. L'idée ne vous est donc jamais venue que je courais ici auprès de vous, de plus mortels dangers que sur les champs de bataille. Vous n'avez pas deviné que j'ai eu la folie, l'orgueil de vous aimer. » Elle rougit jusqu'au front, puis devint très pâle. Son premier mouvement fut celui de l'orgueil offensé. Un pauvre gentilhomme lui parlait d'amour, un mot que les plus audacieux avaient à peine osé murmurer auprès d'elle. Et lui avait osé sentir cela pour elle, et il s'aventurait à le lui dire. Il aperçut ce mouvement de colère et d'orgueil qu'exprimait chacun des traits de sa délicate figure, et il la prévint comme elle allait parler. « Attendez, je sais ce que vous allez dire. Vous trouvez que c'est une audace sans nom, une témérité. Puisque vous devinez si juste, il eût mieux valu vous épargner à vous-même et à moi cette entrevue si inutile, si inattendue. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que peut-être vous ne me reverrez plus dans cette vie, et que vous penserez peut-être avec douceur et pardon à l'offense que j'ai commise, si c'est vous offenser, que de vous aimer plus que la vie, et moins seulement que l'honneur, que vous saurez que je suis tombé pour la cause commune avec votre nom dans mon cœur, votre nom plus chèrement gardé, parce qu'il ne passera jamais mes lèvres. Un amour sincère ne peut être une insulte pour personne. Elizabeth Stuart ne se sentait point humiliée du dévouement de William Craven. » Cécile ne répondit pas. Elle se tenait immobile, la tête droite, enveloppée des rayons du soleil d'automne. Son orgueil ne fléchissait pas, mais son cœur battait d'une manière inaccoutumée. Elle souffrait profondément à la pensée qu'un pauvre proscrit osa lui parler d'amour. Qu'avait-elle fait ? Qu'avait-elle dit pour qu'il se permît une telle liberté ? Et cependant, elle sentait palpiter son cœur d'un vague sentiment de plaisir qui ne l'avait jamais encore visité. Mais elle domina vite ce mouvement de faiblesse et de folie indigne de la dernière des Castlemaine. Il vit bien ce qui se passait en elle, ce qui troublait ses yeux d'ordinaire si tranquilles et faisait palpiter ses lèvres orgueilleuses. Il se pencha vers elle et d'une voix que rendait tremblante son grand amour, « Lady Cécile, écoutez-moi. Si dans la lutte qui s'approche, je gagne honneur et distinction, si la victoire vient à nous, et que le roi se souvienne de moi dans la prospérité comme il le fait aujourd'hui dans l'épreuve, si plus tard je puis reparaître devant vous avec des nouvelles de triomphe, avec un nom que l'Angleterre aura appris à connaître, alors, me permettrez-vous de vous dire ce que vous ne voulez pas écouter à cette heure, et d'espérer de vous une réponse plus clémente ?» Elle le regarda un moment en face, et vit dans ses yeux l'espoir qui espère tout, et sur son front le haut courage d'une âme vaillante. Elle entendit dans le silence les battements de son cœur, ses yeux s'adoucirent, et se tournant vers lui avec son air de reine. « Oui, » murmura-t-elle à demi-voix. Cette parole, qu'on pouvait à peine entendre, avait été pourtant prononcée avec une dignité calme et résolue. La rougeur qui colora ses joues était seulement plus belle à cause de la fierté qui empêchait les larmes de lui venir aux yeux et lui défendait de prononcer un mot plus tendre, mais ce « oui » comptait pour beaucoup, prononcé par Cécile Castlemaine. Son mouchoir, délicatement brodé par elle de ses armes et de son chiffre, était tombé à ses pieds. Il le releva et le cachant sur son cœur. « Si j'échoue, je vous enverrai ceci pour vous montrer que je renonce à tout espoir. Si je reviens avec honneur et renom, ce sera le gage que je puis parler. » Et que vous m'écouterez, n'est-ce pas ? » Elle répondit en inclinant sa noble tête. Les lèvres ardentes du cavalier se pressèrent un moment sur sa main, puis elle se trouva seule à sa fenêtre, sentant son cœur battre douloureusement, ses yeux errant sur la campagne, où les feuilles des arbres tombaient une à une, où la rivière du parc semblait murmurer de plaintifs regrets sur les beaux jours disparus. Deux mois plus tard, les rameaux nus des hêtres étaient balancés par les vents glacés de décembre. La neige couvrait la terrasse du château où les glaçons avaient pris la place des boutons de rose. Dans tout le pays couraient des bruits sinistres qui portaient le découragement et l'effroi dans le cœur des fidèles de la rose blanche. Les messagers au galop s'arrêtant un instant à la porte des auberges, les villageois causant autour du grand feu de la forge, les ecclésiastiques whigs qui rendaient grâce au dieu des armées de ses bénédictions signalées, tous racontaient la même histoire, l'histoire de la bataille de Sheriff Muir et de la fuite du prétendant. Les mauvaises nouvelles se succédaient à l'Ellesford, où le comte se tenait prêt à déployer dans l'ouest l'étendard royal brodé par les mains de sa fille et à proclamer Jacques III seigneur et roi des royaumes de Grande-Bretagne et d'Irlande. Les mauvaises nouvelles arrivaient toujours, et Cecil Castlemaine, désespéré, versait des larmes brûlantes à la pensée qu'un Stuart eût pu fuir devant le traître Argyll, et qu'il y eût des hommes qui préférassent la vie à une mort héroïque. Oh, que n'eût-elle été elle-même à Preston, pour leur faire honte de leur faiblesse et leur montrer, elle qui n'était qu'une femme, comment on meurt avec une ville condamnée plutôt que de se rendre captif. Peut-être sa douleur pour son roi se mêlait-il quelque chose de plus poignant encore, le souvenir d'une figure loyale et courageuse, tournée naguère vers elle avec une expression d'espoir et d'amour sans bornes, et maintenant peut-être, pâle et froide, et tournée vers les étoiles d'hiver dans les champs de Sheriff Muir. 12 longs mois s'étaient écoulés depuis que le carrosse doré des Castlemaine, avec sa suite princière, était arrivé dans les comtés de l'Ouest. Les ossements blanchissaient dans les cercueils de la tour de Londres, et les crânes cloués à Temple Bar avaient senti la neige de l'hiver et les soleils du printemps. Kenmuir s'était endormi du long sommeil, et Derwentwater avait perdu sa jeune et belle tête pour une cause ingrate. La bruyère fleurissait là où étaient tombés les morts de Sheriff Muir. Un été de plus s'est élevé sur l'Angleterre. Les roses secouaient leurs têtes délicates sur la terrasse de l'Ellesford. Les hérons lissaient leurs ailes argentées au bord de l'eau. Les hirondelles décrivaient leurs orbes rapides autour du haut beffroi et les ramiers roucoulaient sous la feuillée. Mais la comtesse de Castlemaine restait seule de sa race et maîtresse désormais des domaines immenses qui s'étendaient sous son regard, ne trouvait ni joie dans l'éclat du soleil, ni charme dans la chanson des oiseaux. Elle était la dernière de ce nom. Son père, le cœur brisé par les désastres de Sheriff Muir et de Preston, était mort le jour même qui avait suivi son emprisonnement à la tour. Il n'avait pas d'héritier mâle et son titre était passé à sa fille. Des bruits de confiscation de ses biens et de danger pour la personne de Cécile avaient couru, mais d'autres, à son insu, s'étaient intéressés à elle et avaient sollicité ce qu'elle eût été trop fière pour demander elle-même. La rapacité de la clique hanovrienne avait épargné les terres et les revenus de l'Ellesford. Elle se retira dans son deuil et s'enferma dans une retraite profonde où nul n'osait pénétrer. Plus froide et plus fière que jamais, pleurant seule sur la cause perdue de son roi exilé, elle ne voulait rien savoir de ceux qui avaient eu la main dans ses désastres, et son chien seul aurait pu remarquer la lassitude de la figure qu'elle penchait vers lui en le caressant. Elle était là, à sa fenêtre, son regard errant sur la solitude du parc, les lèvres presque aussi pâles que les nénuphars des bassins. Peut-être regrettait-elle certaines paroles dites à quelqu'un qu'elle ne reverrait jamais. Peut-être songeait-elle à ce tissu brodé de ses mains, gage d'amour qui devait lui être rapporté dans un jour de triomphe, et qui sans doute, rougi de sang, reposait aujourd'hui sur un cœur qui ne battait plus, car dans toute cette longue année, pas un mot n'était arrivé à elle sur Fulk Ravensworth. Sa fierté lui était chère, plus chère que toute chose au monde. Elle avait parlé comme elle avait le droit de le faire, comme il était séant à une Castlemaine. Ça aurait été une faiblesse de faire autrement. Qu'était-il, lui, le pauvre soldat, qui avait osé lever les yeux jusqu'à elle? Et pourtant le deuil qu'elle portait n'était pas seulement celui du comte. Ce n'était pas seulement pour les Stuarts proscrits que ses yeux étaient pâlis par les pleurs, et que Cecil Castlemaine, la beauté fêtée de la ville et de la cour, prolongeait de mois en mois sa solitude à l'Ellesford. Midi sonnait au beffroi du château, et le brillant soleil du matin semblait toujours peser sur son cœur. Ni le bourdonnement des insectes, ni le bruit joyeux de la sonnette d'argent de sa biche favorite, rien ne la pouvait distraire. immobile et le regard vaguement fixé à l'horizon, elle n'entendit pas même un pas léger dans l'herbe, ni ne remarqua la fuite effarée des daims, quand un jeune garçon caché dans les fougères se leva et, s'avançant près de la terrasse, se tint debout devant elle, lui demandant pardon d'une voix presque enfantine et pourtant résolue. Elle se retourna. C'était un enfant couvert de haillons qui avait osé s'aventurer en la présence de la comtesse de Castlemaine, mais il y avait quelque chose de l'aisance d'un page dans la façon dont il s'inclina devant elle. « Pardon, milady, mon maître m'a ordonné de vous trouver, dussé-je attendre jusqu'à minuit. » « Ton maître ?» Une teinte de rose couvrit un instant sa figure, puis la laissa plus pâle encore. L'enfant ne fit pas attention à ses paroles, mais continua d'une voix basse et inquiète, jetant autour de lui des regards craintifs comme un lièvre qui craint les chasseurs. « Il m'a recommandé, quand je vous verrai, de ne pas dire son nom, mais de vous remettre seulement ce gage, pour vous montrer que bien que tout soit perdu, il n'a oublié ni son honneur, ni votre volonté. » Cécile ne répondit pas, mais étendit la main. C'était son mouchoir brodé, avec sa couronne de comtesse et son nom. « Il vit donc, ton maître ? Il m'a ordonné de ne rien dire de plus. Vous avez son message, c'est tout. » Elle mit sur l'épaule du garçon sa main blanche et délicate, mais qui lui parut comme un étau d'acier. « Enfant, réponds-moi ou prends garde. Parle de celui que tu appelles ton maître. Dis-moi tout, vite, vite. Êtes-vous de ses amis ? Dieu du ciel, parle donc. Il m'a commandé de ne pas vous en dire davantage sous peine de sa colère. Mais si vous l'aimez, je suis sûr qu'il m'est permis de dire ce que vous devez déjà savoir. Aimerait-il véritablement celui qui a besoin de demander si son ami est mort ou vivant ? La figure pâle de la comtesse se couvrit de rougeur. D'un geste impérieux, elle ordonna l'enfant de parler. Elle n'était pas accoutumée à la désobéissance, et ce qu'il venait de dire lui fendait le cœur. « Sir Fulk part demain pour la côte de France, » dit-il alors avec une hâte inquiète. « Ils l'ont laissé pour mort sur le champ de Sheriff Muir, quand nos gens couraient d'un côté et ceux d'Argyll de l'autre. S'il n'avait pas été si fort, il serait mort pour sûr dans cette terrible nuit, blessé, sans soins, dans la bruyère, sous le vent froid. Il n'était pas de ceux qui ont fui, vous saurez cela si vous le connaissez. Nous avons pu le transporter avant l'aube, Donald et moi, et l'avons caché dans une cabane. Il avait la fièvre alors, et ne savait rien de ce qu'on lui faisait. Seulement, il tenait ce morceau de dentelle-là, dans sa main, pendant des semaines, et ne le lâchait jamais. Quelle magie y avait-il là-dedans ? Mais peut-être bien que c'est cette magie-là qui l'a guéri à la fin, car c'est bien étrange qu'il n'y soit pas resté. Enfin, nous avons fait ce que nous pouvions. On aurait donné sa vie pour lui bien volontiers. Nous avons été toute l'année dans les Highlands d'Écosse, guettant et nous cachant. Sir Fulk ne tenait guère à la vie, et je crois qu'il ne nous veut pas beaucoup de bien pour avoir cherché à le sauver. Mais comment aurait-il pu souffrir d'avoir les mains liées derrière le dos et d'être pendu par ces brutes de Whig comme un mouton par le bouchier ? Le plus grand danger est maintenant passé. Ils ont leur sou de sang, et nous passerons la Manche demain. L'Angleterre n'est plus une place pour mon maître. » La main de Cécile serrait convulsivement le mouchoir, ce gage qui lui était si fidèlement renvoyé. Le jeune garçon la regardait fixement. Peut-être, dans le délire de son maître, avait-il appris quelque chose de l'histoire de ce lambeau de broderie. « Si vous êtes son ami, milady, peut-être avez-vous un dernier mot à lui envoyer ?» Cécile Castlemaine, que rien ne troublait jamais, baissa la tête à cette simple question. Son cœur luttait contre son orgueil, ses yeux se voilèrent. Elle pressait sur son sein l'écusson brodé sur le mouchoir, les armes d'une race hautaine et que rien ne faisait fléchir. « Vous ne lui faites donc rien dire, milady ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Elle lui fit signe de s'éloigner. Cet enfant ne devait pas voir sa faiblesse. La comtesse de Castlemaine n'était-elle donc pas plus forte que cela ? L'enfant la regardait toujours. « Je dirai donc à Sir Fulk que les malheureux n'ont pas d'amis. » Elle leva la tête avec cette même grâce hautaine qui ne la quittait pas dans ses jours de triomphe, au milieu d'une cour brillante, et remettant le gage à l'enfant. « Bah, rends ceci à ton maître, et dis-lui que le malheur nous rend nos amis plus chers que le succès. Il comprendra. » Le couvre-feu sonnait au loin. Les fougères tremblaient sous la rosée du soir. Les étoiles scintillaient sur les feuilles frémissantes. Le silence couvrait les bois. Cécile Castlemaine était de nouveau sur la terrasse des roses, cachée dans l'ombre des hêtres, attendant, guettant, écoutant chaque battement des feuilles et n'entendant pourtant que le battement passionné de son cœur. Elle avait oublié son orgueil. Il ne lui restait que l'inquiétude et l'amour. Dans le silence de la solitude, elle reconnut un pas. Elle sentit une présence. Elle cacha sa figure dans ses mains. C'était nouveau pour elle, cette faiblesse, cette terreur, cette angoisse d'amour. Elle voulait se roidir et rappeler sa force. Elle se méprisait, elle se prenait en pitié. Tout à coup, une main saisit la sienne. Une voix aimée se fit entendre. « Cécile, Cécile, est-il vrai? Suis-je plus heureux que jamais dans mon malheur? Ou bien suis-je fou? M'est-il venu un rêve du paradis ?» Elle le regarda de sauts regards qu'il connaissait si bien, mais ses lèvres tremblaient. Il ne trouvait pas de paroles. Puis ses beaux yeux se remplirent de larmes et son regard s'adoucit d'une beauté toute nouvelle. Aussi faible que le soupir de la brise dans les fleurs, sa voix murmura à l'oreille de Fulke Ravensworth en même temps qu'une tête adorée s'appuyait sur son cœur. « Restez, restez, ou si vous devez partir, votre exil sera le mien, et vos dangers, mes dangers. » Le mouchoir brodé est resté comme une relique dans la famille de Cecil Castlemaine et rappelle encore aujourd'hui son mariage secret dans la chapelle du château, son exil avec l'époux de son choix et leur retour et leur vie heureuse à l'Ellesford. Il passe de génération en génération aux belles jeunes femmes qui ont hérité des yeux bleus et des airs de reine de leur aïeul. Il est là, devant moi, avec son chiffre blasonné tel qu'il reposait une fois sur le cœur du pauvre soldat des Stuarts. Ainsi durent les choses sans passion et sans vie, tandis que la vie humaine passe comme une chanson qui meurt dans l'air et aussi vite oubliée qu'elle. Le refrain de Ronsard est celui de nos existences rapides. Le temps s'en va, le temps s'en va, madame. Là, le temps non, mais nous, nous en allons. Ainsi s'achève la dernière des Castlemaine de Ouida.